Aristote, Morale à Nicomaque, livre 6, suite.
Chapitre 6 Sommaire. Rapport de la prudence à la science politique. Elle ne concerne que l'individu et règle comme il convient ses intérêts personnels. L'intérêt de l'individu ne peut être séparé de celui de la famille et de celui de l'État. La jeunesse ne peut avoir la prudence qui ne s'acquiert que par une longue expérience. La prudence ne peut se confondre avec la science. Elle se rapproche davantage de la sensation. Paragraphe 1. Au fond, la science politique et la prudence sont une seule et même disposition morale. Seulement, leur façon d'être n'est pas la même. Ainsi, dans la science qui gouverne l'État, on peut distinguer cette prudence qui, régulatrice de tout le reste et architectonique, est celle qui fait les lois, et cette autre prudence qui, s'appliquant aux faits particuliers, a reçu le nom commun qu'elles portent toutes les deux et s'appelle la politique. La science politique est à la fois pratique et délibérative, car le décret prescrit l'acte que le citoyen doit faire, et c'est comme le terme dernier de la science. Aussi, ceux-là seuls qui rendent des décrets passent-ils aux yeux du vulgaire pour des hommes d'État, parce que seuls, en effet, ils agissent, ainsi que les artistes inférieurs, obligés de mettre eux-mêmes la main à l'œuvre. Paragraphe 2. Une autre distinction, c'est que la prudence s'applique surtout à l'individu lui-même et à un seul. Elle garde alors le nom général de prudence, mais selon ses applications, elle est ou l'économie, c'est-à-dire le gouvernement de la famille, ou la législation, ou enfin la politique, dans laquelle on peut encore reconnaître deux parties distinctes, celle qui délibère sur les affaires publiques et celle qui rend la justice. Paragraphe 3. Ainsi donc, savoir se rendre compte de son intérêt personnel, c'est une espèce de connaissance qui présente d'ailleurs une grande différence avec la science politique. Celui qui sait au juste ce qui le regarde et qui s'en occupe sans cesse passe pour prudent, tandis que les politiques, les hommes d'État, ont à soigner les intérêts les plus divers. Et c'est ce qui fait dire à Euripide, dans une de ses pièces, étais-je donc prudent, moi, qui pus si bien vivre et jouir comme un sage, obscur au dernier rang, de ces biens que le ciel m'eût donnés, non moins grands? Mais ces ambitieux qui prennent tant de peine, Jupiter les condamne. Les gens, qu'on appelle prudents, ne cherchent que leur avantage personnel, et l'on pense qu'ils remplissent un devoir en agissant ainsi. Par suite, c'est de cette opinion que vient leur réputation de prudence. Cependant, on peut soutenir que l'individu ne saurait garantir son propre intérêt sans la famille ni sans l'État. Mais j'ajoute que savoir gérer convenablement ses propres affaires est une chose bien obscure et qui demande bien de l'attention. Paragraphe 4. La preuve de ce que je dis ici, c'est que les jeunes gens peuvent très bien devenir géomètres, mathématiciens, et même se rendre fort habiles en ce genre de science. Mais il n'y a guère de jeunes hommes, ce semble, qui soient prudents. La cause en est toute simple, c'est que la prudence ne s'applique qu'aux faits particuliers, et que l'expérience seule nous les fait bien connaître. Or, le jeune homme n'est pas expérimenté, car c'est le temps qui procure l'expérience. Paragraphe 5. On pourrait se demander encore à ce propos comment il se fait qu'un enfant même puisse devenir mathématicien, tandis qu'il ne peut être ni sage, ni versé dans la connaissance des lois de la nature. Ne peut-on pas dire que ceci tient à ce que les mathématiques sont des sciences d'abstraction, tandis que la science de la sagesse et la science de la nature tirent leurs principes de l'observation et de l'expérience? Ne peut-on pas ajouter que, pour ces dernières, les jeunes gens ne peuvent pas avoir d'opinion personnelle et qu'ils ne font que répéter ce qu'on leur enseigne, tandis que, dans les mathématiques, la réalité n'a rien d'obscur pour eux? Paragraphe 6. On peut dire, en outre, que l'erreur, pour les choses où l'on délibère, peut être commise, soit dans le principe général qu'on suit, soit dans le cas particulier dont on s'occupe. Ainsi, par exemple, on peut se tromper, soit en croyant que toutes les eaux lourdes et pesantes sont malsaines à boire, soit en croyant que telle eau dont on se sert est malsaine et lourde. Paragraphe 7. Donc, évidemment, la prudence n'est pas la science, car je le répète, la prudence ne concerne que le terme inférieur et dernier de l'échelle. Et ce terme, c'est l'acte particulier que l'on doit faire. Paragraphe 8. La prudence n'est pas moins opposée à l'entendement, car l'entendement s'applique aux limites, aux termes, où il n'y a plus de place pour le raisonnement, tandis que la prudence s'applique au terme inférieur, pour lequel il y a non pas science, mais simplement sensation. Quand je dis sensation, je n'entends pas celle des choses purement individuelles, mais j'entends cette espèce de sensation qui nous fait sentir, par exemple dans les mathématiques, que le dernier élément des figures planes, c'est le triangle auquel on est contraint de s'arrêter. C'est à ce genre de sensation que se rapporte davantage la prudence, bien qu'elle en soit encore une espèce différente. Chapitre 6. Sommaire. De la délibération. Caractère de la sage délibération. Elle diffère de la science. Elle suppose toujours une recherche et un calcul. Elle n'est pas non plus un hasard, ni la simple opinion. Définition de la sage délibération. C'est un jugement droit, appliqué à ce qui est vraiment utile. Elle peut être absolue ou spéciale. Paragraphe 1. Il ne faut pas confondre examiner et délibérer, bien que délibérer ce soit examiner quelque chose. Mais quels sont les caractères d'une bonne et sage délibération? Est-elle une science d'un certain genre? Une opinion, une rencontre heureuse, ou quelque autre chose encore que tout cela. Voilà ce qu'il nous faut étudier. Paragraphe 2. D'abord, elle n'est certes pas une science, puisqu'on n'a plus à chercher quand on sait. Mais une délibération, quelque bonne et sage qu'elle soit, est toujours une délibération. Et celui qui délibère cherche encore et calcule. On ne peut pas dire non plus que la sage délibération soit un heureux hasard, une heureuse rencontre, car la rencontre heureuse que fait l'esprit n'admet point de raisonnement. C'est quelque chose d'instantané, tandis que, quand on délibère, on y met souvent beaucoup de temps. Et l'on dit ordinairement que, s'il faut exécuter rapidement la résolution qu'on a prise après la délibération, il faut délibérer avec lenteur et maturité. Paragraphe 3. La sagacité d'esprit est encore autre chose que la sage délibération. Et la sagacité se rapproche beaucoup de la rencontre heureuse. La sage délibération ne se confond pas davantage avec la simple opinion. Mais comme celui qui délibère mal se trompe, et s'écarte du droit chemin, tandis que celui qui délibère bien délibère selon la droite raison, on peut dire que la sage délibération est une sorte de redressement et de rectitude, qui d'ailleurs n'est ni le redressement de la science, ni celui de l'opinion. D'abord, la science n'a pas besoin qu'on la redresse, pas plus qu'elle ne commet d'erreur. Mais la vérité est la rectitude de l'opinion, et l'on a déjà tout arrêté dans son esprit sur l'objet dont on s'est fait une opinion. Néanmoins, comme il ne peut y avoir de sage délibération sans raisonnement, reste donc qu'elle soit un acte raisonné d'intelligence, car ce n'est pas tout à fait encore une affirmation. De son côté, l'opinion n'est plus un examen de l'esprit, elle est déjà comme une affirmation assez précise, tandis que celui qui délibère, bien ou mal d'ailleurs, cherche toujours, je le répète, quelque chose et calcule en raisonnant. Paragraphe 4. En un mot, la délibération sage et bonne est en quelque sorte la rectitude de la volonté et de la simple délibération. Aussi, pour la bien comprendre, il nous faudrait étudier premièrement ce que c'est que la délibération en elle-même et à quoi elle s'applique. Mais ce mot de rectitude peut s'entendre en plusieurs sens, et il est clair que toutes les acceptions qu'il a ne peuvent convenir ici. Ainsi, le débauché et le méchant pourront fort bien trouver, par le raisonnement auquel ils se livrent, la solution qu'ils se sont proposés de découvrir, et par conséquent leur délibération aura été pleine de rectitude, en dépit du mal considérable qu'ils se seront fait. Or, il semble que le résultat d'une sage délibération doit être toujours quelque chose de bon, puisque la sage délibération est cette rectitude de la délibération qui découvre et atteint toujours le bien. Paragraphe 5. Mais d'une autre part, on peut aussi arriver au bien même par un faux raisonnement et rencontrer précisément ce qu'il fallait faire sans avoir employé le moyen légitime. Alors, le terme moyen est faux, et par suite, ce n'est pas là encore la sage délibération, puisque si l'on atteint le but qu'il faut atteindre, on n'a pas pris cependant la route qu'il fallait prendre. Paragraphe 6. De plus, tout en réussissant, celui-ci met beaucoup trop de temps à délibérer. Celui-là, au contraire, prend un parti en un instant. Ni d'un côté ni de l'autre, ce n'est point, là encore, la sage délibération. Elle est, en ce qui regarde nos intérêts, la rectitude à distinguer le but que nous devons poursuivre, le moyen qu'il convient d'employer et le temps auquel il faut que nous agissions. Paragraphe 7. Enfin, il se peut qu'on prenne une sage résolution, soit d'une manière absolue et générale, soit d'une manière spéciale pour quelque fin particulière. La délibération qui est absolument sage est celle qui règle la conduite de l'homme sur la fin suprême et absolue de la vie humaine. L'autre est celle qui ne se règle que sur le but particulier qu'elle poursuit. Mais si la sage délibération est le privilège des gens sensés et prudents, il s'ensuit que la sage délibération est la rectitude du jugement appliquée à un but utile, dont la prudence est une conception exacte et vraie. Chapitre 8. Sommaire. De l'intelligence ou compréhension et de l'inintelligence. L'intelligence ne se confond pas avec la science ni avec l'opinion. Elle s'applique aux mêmes objets que la prudence. Elle se manifeste surtout dans la rapidité à apprendre et à comprendre les choses. Du bon sens. Paragraphe 1. On peut distinguer encore l'intelligence à comprendre les choses et l'inintelligence, deux qualités différentes qui font qu'on appelle les uns des hommes intelligents et les autres des hommes inintelligents. L'intelligence qui comprend les choses ne peut pas du tout se confondre ni avec la science ni avec l'opinion, car autrement, tous les hommes, sans exception, seraient intelligents. Mais on ne peut pas non plus la confondre avec une des sciences particulières, et par exemple avec la médecine, car alors, elle s'occuperait des choses qui se rapportent à la santé, ni avec la géométrie, car alors, elle étudierait les propriétés des grandeurs. L'intelligence, au sens restreint où nous l'entendons ici, ne s'applique pas davantage aux choses éternelles et immuables, ni à aucune de ces choses qui doivent naître et périr. Elle ne s'applique qu'aux choses sur lesquelles il peut y avoir doute et délibération. Paragraphe 2. Ainsi, elle s'occupe des mêmes objets que la prudence. Et cependant, l'intelligence qui comprend les choses et la prudence ne sont pas des facultés identiques. La prudence est en quelque sorte impérative, puisque son but est de prescrire ce qu'il faut ou ne faut pas faire. L'intelligence, au contraire, est purement critique et elle se borne à juger. Voilà pourquoi comprendre les choses se confond avec les bien comprendre. Et pourquoi les hommes qu'on appelle intelligents sont ceux qui ont une intelligence exacte des choses qui les intéressent. Paragraphe 3. L'intelligence, d'ailleurs, ne consiste pas à avoir ou à acquérir de la prudence. Mais de même que quand on apprend une chose, on dit qu'on la comprend, qu'on en a l'intelligence, du moment qu'on peut appliquer la science qu'on possède, de même, l'intelligence ne consiste qu'à se servir de son bon sens, de l'opinion, pour juger les choses auxquelles la prudence s'applique, quand on entend un autre vous les dire, et à les juger convenablement, car les juger convenablement, c'est les bien juger. Aussi, dans la langue grecque, le nom de compréhension ou d'intelligence, c'est-à-dire le nom de cette qualité qui fait dire des gens qu'ils sont vraiment intelligents, vient du nom de cette intelligence des choses qu'on montre en apprenant. Car, très souvent, nous confondons apprendre et comprendre. Paragraphe 4. Quand on a ce qu'on appelle le sens, et ce qui fait qu'on dit d'un homme qu'il est homme de bon sens, qu'il a du sens, c'est simplement le droit jugement d'un homme parfaitement honnête. Une preuve, c'est que dans la langue grecque, on désigne par des mots presque pareils et l'homme honnête, et l'homme qui, entrant dans le sens des choses, est porté à leur pardonner, parce qu'il est honnête et convenable, dans certains cas, d'éprouver l'indulgence qui pardonne les fautes. Or, l'indulgence légitime n'est guère que le sens judicieux et droit de l'honnête, et le sens droit de l'honnête ne signifie que le sens de la vérité. Chapitre 9. Sommaire. Toutes les vertus intellectuelles tendent au même but. Elles s'appliquent toutes à l'action, c'est-à-dire aux termes inférieurs et derniers. Elles sont en général des dons de la nature et elles ne peuvent point s'acquérir. Elles se produisent et s'accroissent avec l'âge. Importance qu'il faut attacher à la vie des personnes expérimentées et des vieillards. Paragraphe 1. Toutes les qualités que nous venons d'étudier, c'est-à-dire le bon sens, l'intelligence ou capacité de bien comprendre les choses, la prudence et l'entendement, tendent au même but. On ne doit pas s'en étonner si l'on remarque que l'on dit des mêmes individus indifféremment qu'ils ont du bon sens et de l'entendement, ou encore qu'ils sont prudents et qu'ils sont intelligents. Toutes ces facultés, en effet, s'appliquent indistinctement aux termes extrêmes et aux faits particuliers. Quand un homme montre du jugement dans les choses qui sont du domaine de la prudence, c'est qu'il est intelligent, qu'il a du bon sens, et qu'au besoin, il sait être indulgent et pardonner. Car les procédés honnêtes et bienveillants sont ceux qu'emploient tous les hommes vraiment bons dans leurs relations avec les autres hommes. Paragraphe 2. Toutes les actions que nous pouvons faire ne s'appliquent jamais qu'à des faits particuliers, c'est-à-dire aux termes extrêmes. Et ce sont eux précisément que doit connaître l'homme doué de prudence. L'intelligence qui comprend les choses, ainsi que le bon sens, concerne uniquement les choses où nous devons agir. Et c'est là ce que j'appelle les termes derniers et extrêmes. Paragraphe 3. Quant à l'entendement, il s'applique aux extrêmes en l'un et l'autre sens, car l'entendement peut aller également et au terme supérieur et au premier, et au dernier terme, ce que ne peut pas faire le raisonnement. Ainsi, dans les démonstrations, l'entendement considère les termes immuables et premiers, tandis que le raisonnement, s'occupant des cas où il est question d'agir, ne considère que le terme dernier, c'est-à-dire le possible, et l'autre proposition qui dérive d'une proposition plus haute. Car ces propositions inférieures sont les principes mêmes et les causes du but que l'on poursuit en agissant, puisque l'universel n'est jamais que le résultat des faits particuliers. Paragraphe 4. Il faut donc avoir d'abord la sensation de ces faits, et c'est cette sensation qui constitue ensuite l'entendement. C'est ce qui fait que ces qualités dont nous venons de parler semblent purement des dons de la nature. Ce n'est jamais la nature qui fait qu'on est savant et sage, mais c'est elle qui nous donne bon sens, pénétration d'esprit et entendement. Paragraphe 5. Ce qui prouve bien ceci, c'est que nous croyons même que ces facultés correspondent aux différents âges de la vie. Nous croyons que tel ou tel âge a la raison et le jugement en partage, comme si la nature était seule à nos yeux, capable de nous les procurer. Voilà encore pourquoi l'entendement est tout ensemble principe et fin, car ce sont là les éléments d'où les démonstrations dérivent et auxquels elles s'appliquent. Une autre conséquence de ceci, c'est qu'il faut attacher tout autant d'importance aux simples assertions et aux opinions des gens d'expérience, d'âge ou de prudence, tout indémontrées qu'elles sont, qu'on en attache aux démonstrations les plus régulières, parce qu'ils ont l'œil de l'expérience pour découvrir et voir les principes. Paragraphe 6. Voilà ce que nous avions à dire pour expliquer la nature de la sagesse et de la prudence, pour montrer les objets auxquels l'une et l'autre s'appliquent, et pour faire voir que chacune est la vertu spéciale d'une partie différente de l'âme. Chapitre 10. Sommaire. De l'utilité pratique des vertus intellectuelles. Comparaison de la sagesse et de la prudence. La sagesse n'a pas pour but spécial le bonheur. La prudence éclaire l'homme sur les moyens d'arriver au bonheur, mais en réalité, elle ne le rend pas plus habile à se l'assurer. La sagesse et la prudence contribuent cependant au bonheur de l'homme ainsi que la vertu, en assignant un louable but à ses efforts. De l'habileté dans la conduite de la vie, ses rapports à la prudence. Il n'y a pas de prudence sans vertu. Paragraphe 1. On pourrait se demander aussi à quoi ces qualités sont utiles. Ainsi, la sagesse ne considère jamais les moyens de rendre l'homme heureux, car elle ne cherche pas à rien produire. Quant à la prudence, elle possède bien, si l'on veut, ses moyens. Mais en vue de quoi en a-t-on vraiment besoin? La prudence, sans doute, s'applique à ce qui est juste, à ce qui est beau, et de plus à ce qui est bon pour l'homme. Et c'est là précisément tout ce que l'homme vertueux doit faire. Mais pour savoir toutes ces règles, nous n'en sommes pas du tout plus habiles à les pratiquer, s'il est vrai, comme nous l'avons dit, que les vertus soient de simples aptitudes morales. C'est comme pour les exercices et les remèdes qui assurent au corps la santé et la vigueur. Ils ne sont rien tant qu'on ne les fait pas réellement, et qu'on n'en parle que comme conséquence possible d'une certaine aptitude. Car nous ne sommes pas en réalité mieux portants ni plus forts parce que nous possédons simplement la science de la médecine ou de la gymnastique. Paragraphe 2. S'il ne suffit pas, pour appeler un homme prudent, qu'il ait la connaissance des choses qui constituent la prudence, mais si, pour mériter ce titre, il doit être efficacement prudent, il s'ensuit que la prudence ne serait utile en rien aux hommes qui sont vertueux, pas plus qu'elle ne le serait à ceux-là même qui ne la possèdent pas. En effet, il n'importe pas qu'ils aient personnellement de la prudence ou qu'ils se laissent guider aux avis de ceux qui en ont. Cette obéissance à la direction d'autrui peut nous suffire comme pour la santé, et, tout en voulant bien nous porter, nous ne nous mettons pas à apprendre la médecine. Paragraphe 3. Ajoutez qu'il serait fort étrange que la prudence, tout en étant au-dessous de la sagesse, en fût cependant la directrice et la maîtresse. Car c'est la faculté agissante et productrice qui doit commander et ordonner dans chaque cas particulier. Mais étudions de plus près ces deux vertus et approfondissons les questions que nous avons simplement posées jusqu'ici. Paragraphe 4. D'abord, nous disons que nécessairement elles sont par elles-mêmes désirables, puisqu'elles sont l'une et l'autre des vertus de l'une et l'autre partie de l'âme. Et si elles ne peuvent rien produire, c'est qu'aucune de ces parties de l'âme ne peut produire davantage. Paragraphe 5. Ensuite, si l'on soutient qu'elles produisent, ce n'est pas comme la médecine produit la santé, mais comme la santé elle-même produit la santé. C'est ainsi que la sagesse fait le bonheur, car, étant une partie de la vertu totale, elle rend l'homme heureux par cela seul qu'elle est possédée par lui et qu'elle est actuellement en lui. Paragraphe 6. De plus, l'œuvre propre de l'homme ne s'accomplit que grâce à la prudence et à la vertu morale. La vertu fait que le but qu'il poursuit est bon, et la prudence fait que les moyens qui doivent y conduire le sont également. Il est bien clair, d'ailleurs, que la quatrième partie de l'âme, c'est-à-dire la partie nutritive, ne saurait avoir de vertu pareille, car il ne dépend point de cette partie inférieure d'agir ou de ne pas agir en quoi que ce soit. Paragraphe 7. Quant à ce que nous venons de dire, que la prudence ne fait pas que l'homme pratique davantage le bien et le juste, il faut prouver cette assertion en reprenant les choses d'un peu plus haut et en posant le principe qui suit. De même que nous disons de certaines gens qui font des choses justes qu'ils ne sont pas cependant encore réellement justes, par exemple quand des gens observent toutes les prescriptions des lois, ou malgré eux, ou en les ignorant, ou par telle cause, et non pas en vue de ces prescriptions elles-mêmes, faisant d'ailleurs tout ce qu'il faut et tout ce qu'un homme vertueux doit faire. De même aussi, ce me semble, il faut agir en toute occasion avec une certaine disposition morale pour être vraiment vertueux. j'entends qu'on doit agir par son libre choix, et en ne se déterminant que par la nature des actes mêmes qu'on accomplit. Paragraphe 8. Or, c'est la vertu qui rend ce choix louable et bon. Mais tout ce qui est fait en conséquence de ce choix préalable n'appartient plus à la vertu. C'est le domaine d'une autre faculté. Du reste, ce sujet vaut la peine qu'on y insiste, afin de l'éclaircir davantage. Paragraphe 9. Il existe dans l'homme une faculté qu'on appelle habileté ou adresse, et qui a pour mission spéciale de faire tout ce qui concourt au but qu'on s'est proposé, et de procurer tous les moyens nécessaires pour l'atteindre. Si le but est bon, cette faculté est très louable. S'il est mauvais, l'habileté devient de la fourberie. Aussi, avons-nous grand soin de dire en parlant des gens prudents qu'ils sont habiles et non pas qu'ils sont fourbes. Paragraphe 10. La prudence n'est pas tout à fait cette faculté même. Seulement, elle ne saurait exister sans cette faculté. Mais jamais non plus la prudence, cet œil de l'âme, ne peut être tout ce qu'elle doit être sans la vertu, ainsi que je l'ai dit et qu'on peut aisément l'observer. Ce sont les raisonnements de notre esprit qui renferment le principe des actes que nous accomplissons plus tard. Puisque, disons-nous toujours, telle chose est que nous devons nous proposer, et que, de plus, celle-ci est à nos yeux la meilleure possible, etc., etc. Cette chose est d'ailleurs en réalité n'importe laquelle, et par exemple, c'est la première que le hasard nous ait offerte. Mais la décision à prendre n'apparaît jamais dans toute sa clarté qu'à l'homme vertueux. Le vice pervertit la raison et nous induit en erreur sur les principes qui doivent diriger nos actions. La conséquence évidente de tout ceci, c'est qu'il est impossible d'être réellement prudent quand on n'est pas vertueux. Chapitre 11. Sommaire. Des vertus naturelles. Les vertus que nous tenons de la nature ne sont pas à proprement parler des vertus tant que nous ne les avons pas éclairées par la raison et fortifiées par une habitude volontaire. Théorie de Socrate, en partie vraie, en partie fausse, sur la nature de la vertu. La vertu ne peut pas se confondre avec la raison. Mais sans raison, il n'y a pas de vertu. La prudence est d'ailleurs inférieure à la sagesse et ne travaille que pour elle. Paragraphe 1. Ces considérations nous ramènent à étudier la vertu sous un nouveau point de vue. On peut l'indistinguer en vertu acquise et en vertu naturelle et spontanée. Et l'on verra que les rapports de la première à la seconde sont à peu près les mêmes que ceux de la prudence à l'habileté. Ces deux espèces de vertus ne sont pas identiques, seulement elles se ressemblent, et c'est là aussi le rapport de la vertu que la nature même nous inspire à la vertu proprement dite. Tout le monde croit en effet que chacune des qualités morales que nous possédons se trouve en quelque mesure en nous par la seule influence de la nature. Ainsi, nous sommes disposés à devenir équitables et justes, sages et courageux, et à développer d'autres vertus dès le premier moment de notre naissance. Mais cependant, nous n'en cherchons pas moins quelque autre chose encore, c'est-à-dire la vertu proprement dite. Nous voulons que toutes ces qualités soient en nous autrement que la nature ne les y a mises, attendu que les dispositions purement naturelles peuvent se trouver dans les enfants et jusque dans les animaux. Mais, privées du secours de l'entendement, elles n'y semblent guère faites que pour nuire. La moindre observation suffit pour le voir et pour reconnaître qu'il en est ici comme d'un corps très lourd qui, s'il marche sans regarder, peut faire les plus lourdes chutes parce que la vue lui fait défaut. Paragraphe 2. Mais quand l'agent est doué d'entendement, cela fait dès lors une grande différence dans sa manière d'agir. Sa disposition morale, tout en restant pareille, deviendra de la vertu dans le sens propre du mot. Ainsi donc, on peut dire que, de même que pour cette partie de l'âme qui n'a que la simple opinion en partage, il y a deux qualités distinctes, l'habileté et la prudence. De même, il y en a deux pour la partie morale. L'une qui est la vertu purement naturelle et spontanée, et l'autre qui est la vertu proprement dite. Et cette vertu supérieure ne se produit pas sans la réflexion et la prudence. Paragraphe 3. Voilà pourquoi on a pu prétendre que toutes les vertus intellectuelles n'étaient au fond que des espèces diverses de la prudence. Et Socrate avait en partie raison et tort en partie dans ses analyses. Il se trompait en croyant que toutes les vertus ne sont que des espèces diverses de prudence. Mais il avait raison de dire qu'elles n'existent pas sans la prudence et la réflexion. Paragraphe 4. Ce qui le prouve bien, c'est qu'aujourd'hui, quand on définit la vertu, on ne manque plus, en disant qu'elle est une habitude morale, d'ajouter à quoi cette habitude se rapporte, c'est-à-dire l'habitude conforme à la droite raison. Or, conforme à la droite raison ne veut dire que conforme à la prudence. Ainsi, tout le monde semble avoir deviné en quelque sorte que cette disposition morale qui est conforme à la prudence est la vraie vertu. Paragraphe 5. Il faut toutefois étendre un peu cette définition en la modifiant. La vertu n'est pas seulement la disposition morale qui est conforme à la droite raison. C'est aussi la disposition morale qui applique la droite raison qu'elle possède, et la droite raison, sous ce point de vue, c'est justement, je le répète, la prudence. En un mot, Socrate pensait que les vertus étaient toutes des espèces diverses de raison, car d'après lui, elles étaient toutes des espèces de science. Et quant à nous, nous pensons qu'il n'y a pas de vertu qui ne soit accompagnée de la raison. Paragraphe 6. Il demeure donc évident, d'après tout ce qui vient d'être dit, qu'on ne peut pas, à proprement parler, être bon sans prudence, et qu'on ne saurait être prudent sans vertu morale. Ces considérations nous serviront encore à juger cette théorie qui soutient que les vertus peuvent être séparées les unes des autres, puisque un seul et même individu, quelque don que lui ait fait la nature, ne les possède jamais toutes sans exception, et qu'il peut déjà avoir l'une sans avoir encore l'autre. Cette remarque, il faut le dire, est vraie pour les vertus purement naturelles, mais elle ne l'est plus pour ces autres vertus qui font que l'homme qui les possède peut être appelé absolument bon, car cet homme aura toutes les vertus du moment qu'il aura la prudence, qui, à elle seule, les comprend toutes. Paragraphe 7. Il est donc certain, encore, que cette haute vertu, dût-elle n'être pratique en rien dans la vie, ne nous en serait pas moins nécessaire, puisqu'elle est la vertu propre d'une des parties de l'âme, et qu'il n'y a pas plus de choix raisonnable de notre volonté sans la prudence qu'il n'y en a sans la vertu, celle-ci étant le but même que nous devons poursuivre, et celle-là nous faisant faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce but. Paragraphe 8. Mais, tout utile qu'est la prudence, on ne peut pas dire qu'elle domine souverainement la sagesse, et cette partie de notre âme qui vaut mieux qu'elle. Tout de même que la médecine non plus ne dispose pas souverainement de la santé, et que, sans en faire elle-même usage, elle se borne à découvrir les moyens de nous l'assurer. Son rôle est de prescrire certains régimes en vue de la santé, mais elle ne prescrit rien à la santé elle-même. Enfin, attribuer cette supériorité à la prudence, c'est comme si l'on prétendait que la politique commande même aux dieux, parce que c'est elle qui commande sans exception tout ce qui se fait dans l'État. Fin du livre cinquième.